Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, le groupe État islamique derrière les attaques de Vienne qui ont fait au moins 3 morts.
L'effroi dans les rues de la capitale autrichienne hier soir. L'un des assaillants a été abattu. Tous les détails dès le début de ce journal. La SNCF réduit la voilure pour cause de confinement. Un TGV sur 4 en circulation dès jeudi. Et puis place au vote aux États-Unis. Mais pour les résultats, il faudra sans doute attendre longtemps.
RTL Matin.
C'est désormais officiel. Hein. Les fusillades qui ont fait au moins 3 morts et une quinzaine de blessés hier soir dans les rues de Vienne portent la marque du groupe État islamique. Bonjour Blandine Milsan.
Bonjour.
L'un des assaillants abattus par la police était radicalisé.
Oui, il a été identifié. Les enquêteurs sont entrés dans son logement en forçant la porte avec des explosifs. Et le ministre autrichien de l'Intérieur a précisé ce matin, disposer d'indications claires. Il s'agit d'une personne radicalisée, a-t-il dit, qui se sentait proche du groupe terroriste État islamique. Cet individu était lourdement armé. Il était équipé, entre autres, d'un fusil d'assaut. Il portait aussi une ceinture d'explosifs qui s'est avérée factice. La police dit avoir procédé à plusieurs arrestations lors des perquisitions cette nuit et ce matin. Le chancelier autrichien, Sébastien Kurz, avait confirmé dans la nuit qu'il s'agissait bien d'une attaque terroriste. Les assaillants étaient équipés d'armes automatiques, a-t-il dit, et ils semblaient s'être préparés de façon professionnelle.
Merci beaucoup Blandine Milsan, direct Brice du Génie du service étranger de RTL. On vous retrouve. Les premiers tirs ont été entendus vers 20h dans le centre de la capitale autrichienne qui profitait des dernières heures de liberté avant le reconfinement. Le chancelier vient de dire, Blandine parle de méthode professionnelle et c'est ce qu'on voit sur les images qui circulent.
Oui, on voit un assaillant vêtu d'une combinaison de couleurs claires. Il porte un fusil mitrailleur en bandoulière, une arme de poing à la ceinture et un petit sac à l'épaule. Il arpente au pas de course les petites rues du centre-ville de Vienne et il semble calme, assez méthodique. Il ralentit le pas, par exemple, lorsqu'il arrive à un croisement pour ne pas se faire surprendre par les forces de l'ordre, puis tire en rafale sur un passant qu'il croise au hasard dans une petite rue piétonne avant de revenir sur ses pas et de l'achever avec son arme de poing. Puis une terrasse de restaurant sera aussi sa cible. Cette déambulation mortifère, elle va se poursuivre dans 6 lieux différents de la capitale autrichienne. Des dizaines de coups de feu sont entendus. Heureusement, à quelques heures d'un reconfinement en Autriche, les rues de Vienne étaient déjà en partie désertes.
Merci beaucoup Brice du Génie. Évidemment, ces attaques résonnent d'une façon particulière chez nous en France. Moins d'une semaine d'ailleurs après l'attentat dans une église de Nice, l'enquête avance. On sait maintenant que l'assaillant tunisien actuellement hospitalisé était arrivé en Europe en septembre sur l'île de Lampedusa et avait rejoint la France en passant par Vintimille. Un autre Tunisien qui avait fait le parcours avec lui est toujours en garde à vue. Et puis en Turquie, le terrible bilan du violent tremblement de terre qui a secoué l'ouest du pays vendredi dernier, il atteint désormais les 100 morts. Près de 150 personnes sont toujours hospitalisées.
RTL, il est 8h03. Nous sommes armés pour combattre le virus. C'est ce qu'a assuré il y a quelques minutes sur RTL le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Les cliniques privées sont en train de prendre le relais. Une quarantaine de transferts effectués la semaine dernière, d'après Olivier Véran. L'épidémie a fait hier près de 420 morts en France. C'est un record depuis le mois d'avril. Et on mesure déjà les conséquences sociales de cette crise sanitaire et économique. 1 million de Français ont basculé dans la pauvreté depuis le début de la pandémie. Illustration très concrète à Perpignan, où la banque alimentaire a été dévalisée. Il n'y a plus d'huile, plus de sucre, plus de café. Reportage de Patrick Tégéraud.
Nous sommes dans l'immense hangar de la banque alimentaire.
Donc, ben, vous le voyez, nos étagères qui sont vides, exceptionnellement vides.
Denis Bastouille préside la banque alimentaire des Pyrénées-Orientales.
En lait, par exemple, il nous manque 50 palettes de lait pour finir l'année. Et je peux vous dire, depuis début octobre, on a à peu près au moins 2 mails par semaine de nos associations qui nous disent « Attention, le nombre de bénéficiaires a augmenté. »
Voire même doublé par endroit. Ce sont souvent des travailleurs pauvres, des saisonniers. Angèle Combe distribue l'aide alimentaire à Salses-le-Château.
Il y a beaucoup moins de viande. Il y a sucre, café, huile. Et très peu de produits d'hygiène aussi.
Et les gens qui viennent ici, vous le font remarquer?
Ils prennent ce qu'on leur donne et on s'excuse des fois de leur donner peu.
Catherine est mère de famille. Elle vient depuis quelques semaines récupérer un colis au centre communal d'action sociale de Salles. La faute à la crise sanitaire.
Là, ça fait que nous enfoncer encore un peu plus. On est obligé de rogner sur la nourriture alors qu'on ne devrait pas avoir à rogner sur la nourriture.
Et de retour dans sa hangar quasiment vide, Denis Bastouille redoute ce nouveau confinement et ses conséquences économiques et sociales.
Les gens, quand ils ont faim, ils sont prêts à tout. Il pourrait y avoir le feu. On contribue à maintenir la paix sociale dans les villes et dans les campagnes.
Alors Denis lance un appel aux dons et aux bénévoles. Il n'y a jamais eu autant de personnes à aider.
Un reportage signé Patrick Tégéraud à Perpignan pour RTL. Conséquence du nouveau confinement qui s'impose en France depuis ce week-end. Les choses changent à la SNCF. À partir de jeudi, il n'y aura plus qu'un TGV sur quatre en circulation. Bonjour Martial Youx.
Bonjour.
Un quart des trains, c'est plus ou moins qu'en mars d'ailleurs?
C'est beaucoup plus, oui. Puisqu'en mars, au plus fort du premier confinement, on ne comptabilisait que 7% des TGV. Jeudi, on sera donc à 25%. Concrètement, sur les TGV sud-est, par exemple, on n'aura plus que 5 Paris-Lyon aller-retour au lieu de 20. Un Paris-Nice par jour au lieu de 4, un aller-retour en Ouigo par jour pour Marseille, Montpellier ou Lyon. Les billets déjà achetés seront donc annulés par la SNCF pour un certain nombre d'entre eux. Les places seront remboursées, voire transférées vers d'autres horaires quand c'est possible. En fait, la SNCF s'adapte à la demande, y compris d'ailleurs sur les trajets du quotidien. En région parisienne, Olivier Véran en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Alba Ventura. Île-de-France Mobilité observe à la loupe le trafic depuis hier. Et même si c'est contre-intuitif aux heures de pointe, eh bien hier, il y avait 30% de fréquentation dans les métros et transiliens en moyenne, au lieu de 68% depuis le déconfinement. Il y a donc moins de monde. La compagnie ferroviaire va aussi réduire la voilure pour éviter de creuser encore plus les 4 milliards de pertes qu'elle a déjà accumulées depuis janvier.
Merci beaucoup, Martial Youx.
On part aux États-Unis dans un instant. Dernier meeting des candidats et dans la foule côté Trump. Surprise, le sénateur du Rassemblement National, Stéphane Ravier, qui espère une réélection du président sortant.
Ça serait bras d'honneur au système, déjà. Donc ça devrait nous inspirer.
On se retrouve dans un instant sur RTL.
RTL Matin. RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. La campagne est terminée aux États-Unis.
Donald Trump et Joe Biden ont battu le rappel des foules jusqu'au bout. Dernier sprint pour le président sortant qui a enchaîné encore pas moins de 5 meetings, dont l'un à Scranton en Pennsylvanie, un état qu'il avait raflé de justesse il y a 4 ans. Malgré les sondages, Donald Trump prédit, je cite, une magnifique victoire. Ce que souhaite aussi la droite nationaliste européenne qui avait fait le déplacement. Reportage de Philippe Corbet.
Dans la foule, avec une casquette de la campagne Trump, le sénateur Stéphane Ravier du Rassemblement National, impatient de voir le président américain réélu.
Ça serait bras d'honneur au système déjà, donc ça devrait nous inspirer. Il y a une liberté de ton dans la campagne, on le voit sur les clips. Combatif, offensif, qui ne met pas un genou à terre.
Un peu plus loin, l'ancien eurodéputé britannique Nigel Farage, figure du Brexit.
Il est le leader du monde libre, que ça nous plaise ou pas. La différence entre Biden et Trump ne pourrait être plus flagrante. Vis-à-vis de la Chine communiste, vis-à-vis de l'Union européenne. Car bien entendu, Biden adore l'Union européenne, c'est un mondialiste. Et Trump n'aime pas l'Union européenne. Il croit au Brexit, il croit à l'Europe des nations. Donc l'impact de cette élection pour nous tous, en France, au Royaume-Uni, c'est très important.
Qu'est-ce que Macron et Merkel devraient faire si Trump était réélu ?
Oh, reconnaître que le monde change.
Des diplomates européens ici craignent que si le président Trump est réélu, il se retire de l'OTAN en laissant les Européens seuls.
Philippe Corbet. Donc après le bruit et la fureur de la campagne, place au vote aujourd'hui, même si 100 millions d'Américains se sont déjà prononcés par anticipation pour éviter les bureaux bondés en pleine pandémie.
RTL, la minute américaine.
Avec vous, Sinamir, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL aux États-Unis. Question simple, est-ce qu'on est sûr de se réveiller demain matin, ici à RTL, avec le nom du nouveau président pour les 4 prochaines années ?
Ah non, rien n'est sûr. 2020 pourrait même, selon beaucoup de juristes, être l'élection la plus litigieuse de l'histoire américaine. Je vous explique pourquoi dans un instant. La plus grosse probabilité, c'est qu'on n'aura pas de vainqueur avant quelques jours. D'abord, il y a la question du dépouillement. À cause de la pandémie, 95 millions d'Américains ont déjà voté très souvent par courrier. Le problème, c'est que contrairement au vote anticipé classique dans le bureau de vote, les enveloppes ne peuvent être ouvertes que le jour J ou après la fermeture des bureaux. Bref, ça peut prendre des jours dans certains états clés.
Et en plus, avant le résultat, Donald Trump a déjà annoncé vouloir aller en justice s'il était donné perdant.
Oui, mais contester, c'est inhérent à cette élection américaine. Tellement le pays est grand. Quand c'est très serré à un endroit, prenez le Michigan en 2016 par exemple, ça s'est joué à 11 000 voix entre Trump et Clinton sur 5 millions d'électeurs. Dès que l'écart est aussi petit, le candidat défavorisé va tenter d'éliminer les bulletins non conformes pour l'emporter. C'est notamment la bataille qu'ont menée Trump et les Républicains depuis des semaines au Texas ou en Pennsylvanie par exemple.
Il n'y a aucune chance que l'on sache demain alors ?
Il y en a une. La Floride, le plus grand swing state, 29 grands électeurs. Contrairement à 2000, où ça avait été justement un bourbier juridique pendant un mois entre Al Gore et Bush, la Floride, cette année, c'est l'un des seuls États américains qui a déjà depuis des semaines dépouillé le vote anticipé dont je vous parlais tout à l'heure. C'est avant même l'ouverture des isoloirs, un tableur Excel déjà bien rempli. Si Biden l'emporte, c'en sera fini pour Donald Trump, même en multipliant les recours dans d'autres États.
Merci Sinamir.
Et demain, RTL sera en matinale spéciale dès 4h30 avec nos correspondants et nos invités. Tous les résultats sur l'application RTL.
Tiens, écoutez ce son à présent. C'est la folle ambiance qui règne en ce moment à Bercy au Masters 1000 de tennis. Confinement oblige, les matchs se jouent dans un huis clos absolu. On entend que le bruit des chaussures et des raquettes. Ça n'a pas porté chance au jeune Hugo Gaston. La révélation de Roland Garros, éliminé dès le premier tour hier par l'Espagnol Pablo Carreño Busta. Ça s'est passé en revanche pour les trois autres Français en lice. Hugo Humbert, Corentin Moutet et Benjamin Bonzi. Le PSG est privé de Kylian Mbappé demain à Leipzig en Ligue des Champions. Il ne s'est pas remis de sa blessure à la cuisse samedi à Nantes. Info RTL de Philippe Sanfourche.
Histoire du jour.
Un automobiliste francilien verbalisé en Normandie, il allait se confiner dans sa résidence secondaire et c'est l'immense chauffe-eau qu'il transportait sur la banquette arrière de son cabriolet qui a attiré l'œil des gendarmes. L'imposant appareil était toujours dans son emballage en carton et surtout l'enfant qui était assis à côté n'était pas attaché. Ah, j'oubliais, cet automobiliste prévoyant un hiver rigoureux se rendait à survie dans l'Orne. Ça ne s'invente pas.
Vous êtes content de vous.